Bonjour, c'est Jean-Marie Marcaux sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Cher Jean-Marie, suite à la publication d'une récente illustration du chat de Philippe Geluck, m'est venue cette question. Peut-on connaître le bonheur quand on n'est pas du matin ? Tout ça parce que le chat de Philippe Geluck disait que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Merci pour ton éclairage.
Mon cher Thierry, dois-je déduire à ta question que tu n'es pas du matin ? Nous en parlerons plus tard. Alors en fait, le chat de Geluck, tu fais référence en effet à cette petite pastille humoristique que j'avais remarquée moi aussi, où le chat de Geluck nous dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, bonheur écrit en un seul mot, B-O-N-H-E-E-R ». Eh bien, ce jeu de mots, je l'ai moi-même déjà utilisé aussi avec des ateliers pour enfants, puisque j'avais précisé en effet que être heureux, ça s'apprenait de bonheur, et j'écrivais aussi bonheur avec un seul mot. On va parler à ce moment-là aujourd'hui de nos rythmes de vie en fait. La vraie question c'est, nous avons tous des rythmes de vie, alors il y a plusieurs théories sur ce sujet, y compris sur ce qu'on appelait les biorhythmes, qui nous parlaient de différents rythmes que nous avions dès la naissance. La réalité en tout cas, c'est que nous avons des moments dans lesquels nos actions sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Nous avons des moments qui sont source d'énergie dans notre temps personnel. Je vais revenir sur les détails par la suite. Et nous avons d'autres moments qui sont plutôt dettes d'énergie, où on va puiser dans l'énergie qu'on a déjà accumulée en nous. Alors, si quelqu'un me dit que la personne n'est pas du matin, je peux peut-être en déduire qu'en effet, cette personne, au moment de son réveil, va plutôt être en dette d'énergie, va aller devoir puiser dans ses réserves pour pouvoir trouver l'énergie, en effet, de se mettre en mouvement, quand d'autres personnes se réveillent instantanément et sont tout de suite à 100% d'efficacité. Alors, pour cela, un travail que je fais faire à mes clients en coaching, qui est vraiment de dessiner des courbes sur l'énergie, en fait. À quel moment vous vous sentez en source d'énergie et à quel moment vous vous sentez en dette d'énergie. On fait ça sur une journée de travail, on va dire classique. On le fait aussi sur une journée de week-end ou de vacances ou de détente, on va dire. On le fait aussi sur une semaine et on voit aussi au fil du temps quels sont les jours pendant lesquels nous avons plus ou moins d'énergie. On comprend énormément de choses. Je le fais faire aussi sur un mois, je le fais faire sur une année et je le fais faire sur une vie. Et c'est très intéressant parce que, eh bien, on va pouvoir repérer comment nous fonctionnons, quelles sont les activités que nous mettons en place dans des moments sources, quelles sont les activités que nous mettons en place dans des moments d'être, d'énergie. Et là, quelquefois, eh bien, on se rend compte que nous n'optimisons pas en fait notre énergie. Ce qu'il faudrait, dans l'idéal, c'est d'utiliser les activités, les moments où nous sommes en dette d'énergie pour réaliser des activités sources, pour faire tout ce qu'il nous plaît. Et utiliser, par contre, des moments où nous sommes en source d'énergie, ces moments en effet où nous sommes prêts en effet à tout abattre, à tout développer, on a envie de se mettre en action pour à ce moment-là réaliser tout ce qui nous demande un peu plus d'efforts, les contraintes, les corvées, etc. Alors c'est vrai que ce n'est pas naturel, puisque comme l'avait expliqué à l'époque Henri Laborie avec sa loi du moindre effort, Eh bien, nous avons tendance, en effet, à faire d'abord ce qui nous plaît et à remettre à plus tard les corvées, les contraintes, tout ce qui nous dérange, ou tout ce qui n'a pas de sens direct, en fait, qui ne nous fait pas non plus plaisir. Et c'est là où, pour optimiser le temps, il est préférable, en effet, puisque nous avons un certain nombre de contraintes et de tâches à réaliser qui ne nous passionnent pas forcément, eh bien de commencer par ces tâches avec la promesse d'une récompense. Et là, on va amener notre cerveau à générer cette fameuse dopamine qui est la récompense de nos actions. Donc si on n'est pas du matin, ça veut dire qu'on a besoin de plus de temps en fait, pour atteindre une énergie positive, une énergie source en nous. Et donc, l'idéal, c'est d'organiser son temps en conséquence. Alors, et bien évidemment, il y existe des conventions qui font que l'on doit être à une certaine heure au travail, qu'on doit tout de suite être très efficace, très performant. Mais dans ce cas, évidemment, si on a le sentiment de souffrir face aux conventions, eh bien, le mieux, en effet, c'est d'être indépendant. Ce n'est pas facile d'être indépendant, mais ça veut dire que l'on va travailler pour soi, mais surtout que l'on va travailler à son propre rythme. Alors, dans ce cas, on n'a pas de responsable hiérarchique qui peut nous mettre la pression, mais je rappelle qu'un indépendant, bah, il a des clients, il a une banque, il a l'État aussi, qui sont autant de sources possibles de contraintes ou de sources possibles aussi de corvées lorsqu'on n'apprécie pas éventuellement la partie administrative de notre travail. Alors je reviens, lorsque je parle de temps, notamment, je fais souvent référence aussi à cette phrase tirée de la Bible, de l'Ecclésiaste, qui nous dit « Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. » Que j'interprète en disant, ben voilà aussi, si l'on se connaît bien, eh bien, on peut connaître le bonheur tôt, on peut connaître le bonheur tard, peu importe, l'important, c'est de se connaître, c'est de s'accepter, sans résignation, et de savoir à quel moment nous avons envie de faire quoi exactement, et d'organiser notre temps en conséquence. Donc pensez à Henri Laborie, cette loi du moindre effort, ayez toujours une petite récompense pour vos corvées, et utilisez votre temps au mieux.
Est-ce que l'on est heureux parce que l'on nage dans le bonheur, ou nage-t-on dans le bonheur parce que l'on est heureux? Être heureux et être dans le bonheur sont-ils indissociables?
Merci Myriam pour cette nouvelle question toujours très pertinente. Alors là, ça me fait penser un petit peu à l'histoire de la poule et de l'œuf finalement. Est-ce qu'on est d'abord heureux avant de ressentir du bonheur, ou est-ce qu'on ressent du bonheur parce qu'on est heureux? Je vais essayer de répondre en distinguant finalement les deux approches. Dans la définition, il y a deux choses. Il y a d'abord qu'est-ce que c'est que être heureux, et ensuite nager dans le bonheur. Alors, je distingue parce que être heureux, en fait, c'est un état. On est heureux ou pas. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire en effet que l'on va ressentir une forme de bonheur. Et si on regarde une définition comme celle du Dico Philo, par exemple, qui va nous donner aussi un peu de recul sur la question, eh bien le bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Donc, il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Être heureux est une expérience à la fois individuelle et humaine. Et donc, on va bien parler d'un état, dans le fait d'être heureux. Suis-je heureux? Suis-je dans un état heureux? Avec quelque chose qui s'apparente plus à une action, qui est le fait de nager dans le bonheur. Donc, un état nous demande d'abord d'en être conscient. Si on n'est pas conscient, alors on va finalement réagir par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Et dans ce cas-là, si on est pour moi dans la réaction, on n'est pas dans le bonheur. Le bonheur est lié à la conscience. À la conscience, notamment, du présent, et de nos différentes connexions que nous pouvons avoir. Donc c'est un état de bonheur qui peut être physique, qui peut être donc matériel. Mes besoins matériels sont satisfaits, mes besoins physiologiques sont satisfaits. Je n'ai ni faim, ni soif, ni sommeil, ni difficulté à évacuer mes déchets corporels, ni difficulté à respirer. Je me sens prêt à vivre en tant qu'individu, en tant qu'espèce aussi. Et donc, je peux dire, mes besoins physiologiques sont bien satisfaits. Je peux donc être heureux, non, parce que j'ai aussi des besoins psychologiques. Donc, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens bien reconnu, apprécié? Est-ce que je me sens aussi prêt à être l'acteur, l'actrice de ma propre vie? Est-ce que je sens un élan qui me pousse à créer, à être joyeux? Donc, c'est tout ça, en effet, qui sont nos connexions. Et une bonne conscience de ce que nous possédons à ce moment-là peut provoquer justement cet état d'être heureux sans qu'il y ait une action particulière. Donc, conscience et bonheur vont de pair, me semble-t-il. Voilà, parce que si on est heureux mais de façon inconsciente, ça veut dire qu'on ne prend pas la mesure même de ce bonheur. Si on parle maintenant de ton expression « nager dans le bonheur », parce que tu dis « est-ce que l'on est heureux parce que l'on nage dans le bonheur » ou « est-ce que on nage dans le bonheur parce qu'on est heureux ?» Qu'est-ce que ça veut dire que nager dans le bonheur, c'est être dans l'action. C'est donc être acteur de sa vie, être acteur de son propre bonheur. C'est aussi, pour ceux qui aiment nager, en tout cas, de se sentir porté par l'eau, comme on serait porté par le bonheur, porté par notre instinct de vie et de joie. On a aussi un instinct de joie, ça veut dire que même si nous traversons des vagues un petit peu hautes, une mer plate est toujours possible quelque part. Et pour ceux qui n'aiment pas forcément nager, on peut considérer aussi qu'on peut nager dans le bonheur quand on sait qu'on a pied, on est serein, on est en confiance. On sait qu'il peut y avoir un danger potentiel, mais en tout cas, on est prêt à pouvoir l'affronter. Donc on voit que finalement, le fait d'être heureux est à la fois quelque chose qui tient d'une prise de conscience, donc d'un état, d'une réflexion, d'un retour sur soi-même, donc un cheminement à travers son monde intérieur, et la capacité de pouvoir vraiment apprécier, profiter, savourer ce que la vie nous offre. Et c'est aussi se mettre en action, c'est-à-dire être heureux, choisir d'être heureux. Et donc je préconise justement de commencer par l'envie. Si on se pose la question, est-ce qu'on est heureux parce qu'on nage dans le bonheur ou est-ce qu'on nage dans le bonheur parce qu'on est heureux? Eh bien, peut-être que la réponse, c'est de dire, peu importe, commençons par l'envie d'être heureux, le désir d'être heureux, le désir de continuer à vivre, mais en posant un regard différent sur les situations que nous allons vivre. Si je choisis de les vivre en étant heureux, ça veut dire que je vais beaucoup plus profiter de chaque bon moment. Et lorsque je vais vivre des situations plus délicates, je vais avoir peut-être le recul nécessaire pour en tirer une leçon, un enseignement, quelque chose qui va me faire grandir et qui me préparera peut-être justement à d'autres choses beaucoup plus positives plus tard. En tout cas, j'éviterai d'être dans la répétition inconsciente de ce que j'ai déjà fait ou que d'autres ont fait, l'imitation, et c'est ce dont nous parle le conte qui vient tout de suite. Bien souvent, nous sommes dans la répétition, nous recopions des choses, des gestes, sans même chercher à les comprendre. En voici un exemple, dans cette petite histoire. Une petite fille observe sa mère qui prépare le rôti. Maman, pourquoi coupes-tu le bout du rôti ?
Ma mère faisait cela. Son rôti était très bon. Aujourd'hui, je fais comme elle.
La petite fille va la voir sa grand-mère.
Mamie, pourquoi coupes-tu le bout de ton rôti ?
Ma maman faisait comme ça. Son rôti était excellent. Alors, je fais comme elle.
La petite fille ne se démonte pas et va voir son arrière-grand-mère.
Grand-mamie, mais pourquoi coupes-tu le bout du rôti ?
Ben, pardi, ma petite, c'est parce que mon plat est trop petit.
C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. Flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds when you're gone. Plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.